Vous êtes sur les ondes de Choc FM à Kitry-Hervouët. Je suis au téléphone avec Viateur Lefrançois, qui est un de nos nouveaux chroniqueurs. Il va traiter d'un sujet très intéressant, qui est l'histoire. Viateur, bonjour.
Bonjour.
De quel sujet allez-vous nous parler aujourd'hui pour votre première chronique sur Choc FM 105?
J'ai pensé peut-être commencer au début là, de l'arrivée de Jacques Cartier, les trois voyages de Jacques Cartier. Donc, ça me permet, en allant de façon chronologique, aller monter, aller plus loin jusque... je pense que les gens vont être moins mélangés. On peut dire d'aller d'un personnage à l'autre qui n'a pas trop de suite. Ça, c'est... des fois, c'est plus intéressant de commencer par A, finalement.
Merci beaucoup de nous parler de Jacques Cartier. Est-ce que vous pourriez m'en parler un peu plus? Qui est-il, ce Jacques Cartier?
En fait, Jacques Cartier, il est de Saint-Malo, en Bretagne, et c'est un noble. Il a marié, d'ailleurs, une Catherine Desgranges, qui est vraiment une famille influente, qui a des entrées à la cour du roi. Il est né le 7 juin. En 1491 à Saint-Malo, puis il est décédé en 1557. Donc, vous voyez, c'est quand même une vie quand même assez longue pour l'époque.
Oui, assez longue, oui, pour l'époque, oui.
Mmh. Oui, oui. Et puis, c'est ça, c'est un navigateur. Hein, un navigateur, c'est le premier explorateur du golfe Saint-Laurent en 1534 qui a découvert le fleuve Saint-Laurent, qui appelait la grande rivière du Canada. Puis il a été commandant de la première colonie qui a fondé, la colonie française de Charlebourg-Ouest près de Cap-Rouge, donc vous voyez. Et dans sa jeunesse, en fait, il a fait aussi des expéditions avec Giovanni Verrazzano, qui était un grand explorateur, entre 1524 et 1528. Donc il avait de l'expérience. Il est allé aux Indes orientales, qui est finalement l'Amérique latine d'aujourd'hui, et aux Indes, et finalement ces trois voyages, ils ont fait aux Indes occidentales, qui est finalement l'Amérique du Nord, le Québec, le Canada d'aujourd'hui. Donc, vous voyez que c'est pour ça d'ailleurs que les Autochtones sont appelés les Indiens depuis cette époque, à cause des, justement. C'est ça, donc c'est intéressant de savoir un peu pourquoi ils ont ce nom-là aussi. Hein.
Est-ce que vous pourriez me décrire un peu le premier voyage de Jacques Cartier, Viateur?
Oui, en fait, il est parti le 20 avril de Saint-Malo, le 20 avril 1534. Il y avait deux navires, 61 hommes, dont des hommes d'équipage. Et ça a pris 20 jours pour traverser, ce qui était un bon temps, parce qu'il n'y a pas eu de vent, juste des vents favorables. Donc, ça a été très, très intéressant pour ça. Et rendu à Terre-Neuve, finalement, les marins vont se ravitailler avec en allant le poisson, les morues étaient extraordinaires, étaient très, très, très grosses. Et justement, ils vont rencontrer dans le détroit de Belle-Île un navire de qui venait de La Rochelle, qui lui s'était perdu. Et ils vont c'est un navire de pêche, hein? Et finalement ils vont lui indiquer la route à reprendre pour retourner en France. Et simplement pour dire que c'est pas vraiment Jacques Cartier qui a découvert le Canada dans ce sens-là, parce qu'il y avait beaucoup de les pêcheurs français venaient beaucoup sur les côtes de Terre-Neuve pour pêcher à l'époque. Mais ce qui est l'avantage de Jacques Cartier, c'est qu'il est documenté. Tout est documenté.
Ah oui, c'est super ça.
Oui, c'est ça qui est intéressant pour l'histoire. Hein, c'est ça, parce qu'il a écrit les relations de Jacques Cartier et tout ça, donc c'est intéressant pour ça. Et quand il découvre le golfe Saint-Laurent, les Nanticosti, tout ça, et à mesure qu'il avance, il donne des noms français à tous les lieux, aux îles, au Cap et tout ça, donc ça fait que finalement, peu à peu, ben, il s'approprie le territoire, si on peut dire, par exemple, comme l'île Brion, ben, qui est près des îles de Madeleine, qui a encore le nom qui porte encore le nom, l'île Brion. Vous voyez comment c'est intéressant. Et à mesure qu'il avance, et d'ailleurs, beaucoup des noms qu'il a donnés à 1534 sont encore aujourd'hui au Québec. Donc, ce qui est vraiment intéressant aussi de voir ça.
Est-ce que vous pourriez me parler un peu de qui est le chef Dona Cona?
Oui, en fait, quand il va descendre vers l'île du Prince-Édouard, ensuite il est traversé jusqu'à la baie des Chaleurs. Donc, il va donner le nom de la baie des Chaleurs. Là, il va rencontrer les Micmacs, les Indiens Micmacs. Il va faire du commerce d'ailleurs. C'est intéressant avec eux.
Micmac, c'était leur nom aviateur?
En fait, les Micmacs, les noms des Iroquois ou les noms des Micmacs de l'époque, c'était pas le nom qu'ils portaient aujourd'hui. Hein. Mm-hmm. C'est difficile à savoir le nom des noms. Mais ils pensaient probablement qu'ils avaient déjà vu des Européens parce qu'ils voulaient négocier avec eux. D'ailleurs, ils ont négocié entre les Français et les Micmacs. Ce qui est intéressant, il voulait tellement négocier que finalement, peut-être une petite anecdote, c'est que pendant deux séances, à la fin des deux séances de négociation, les Indiens sont partis pratiquement tout nus, ils avaient tout donné et les Français, ils leur donnaient des genres de bijoux, même des chapelets, ils leur donnaient des haches, des hachettes et tout ça, des couteaux, et finalement c'était vraiment intéressant. Si on revient à Dona Cona, en fait, c'est quand il a quitté la baie des Chaleurs, il a monté vers Gaspé, qui s'appelait Ungono à l'époque, qui finalement est Gaspé aujourd'hui. Et là, c'est là qu'il va rencontrer le chef Dona Cona. En fait, il y a 200 Iroquois qui sont dans baie de Gaspé et tout ça. En fait, ils sont pas originaires de Gaspé ou de Ungono. Ils sont originaires de Stadacone qui est à Québec actuellement.
D'accord.
Et Dona Cona, lui, est le chef. Et là, ben, il y a 200 Iroquois qui sont arrivés, qui chaque année vont pêcher la morue et redescendre le Saint-Laurent pour finalement retourner à Québec. Donc, c'est un peu ça. Et ce qui est arrivé avec Dona Cona, c'est que ils sont assez bien entendus, même si personne ne comprenait la langue de l'autre. Avec des signes ou ça, ils sont assez bien entendus. En même temps, ben, ils tenaient toujours leurs cadeaux, naturellement. Il va y avoir des fêtes. Je dois dire que autant les Micmacs que les Iroquois sont très recevants pour les visiteurs. Il y a des danses, il y a des feux, il y a toutes sortes de... Et tout le monde danse. Hein, et c'est intéressant. C'est une belle réception. Et là, ben Jacques Cartier va planter une croix. Et là, ça va refroidir un peu la croix pour prendre possession
du territoire.
Du territoire, ouais. Ça, dans la baie de Gaspé.
C'est-à-dire que planter la croix, la croix catholique, au final, c'est ça, si je comprends bien.
Oui,
c'est-à-dire
pour
faire comprendre que c'est le territoire appartient maintenant aux Français.
Au roi de France. C'est
au
ça,
roi
exactement.
De France, oui, exactement.
Et là, ça va refroidir un peu, parce que là, Dona Cona, il s'aperçoit que ce sont des gens intelligents, et il voit bien que finalement, c'est son territoire à lui. Lui, il revendique ce territoire-là. Et il va aller sur le bateau, justement, rencontrer pour finalement signifier un peu son désaccord et son mécontentement. Et finalement, les gens de Cartier, les gens de Cartier vont finalement donner l'ordre pratiquement les amener de force sur le bateau, mais rendus sur le bateau, ben finalement, ils sont bien traités et tout ça, puis il y a encore des festivités. Et là, il va faire une offre à Dona Cona, c'est d'amener ses deux fils en France, qui s'appellent Thomas Gaïa et Tayo Yanni. ils ont 16-17 ans, et finalement, Dona Cona lui fait comprendre qu'il va revenir dans 12 lunes, donc dans 12 mois, et finalement, Dona Cona va accepter avec cette promesse-là et ils vont quitter finalement comme ça avec les deux Iroquois sur le bateau.
Et qu'est-ce qui s'est passé avec ces Indiens, enfin ces deux Iroquois qui sont venus en France, Viateur?
L'idée de Cartier, c'était de leur apprendre le français pour servir d'interprète à leur retour.
Ah oui, c'est super ça. Enfin, c'est super entre guillemets, c'est histoire que les deux peuples se comprennent.
Ah oui, finalement, c'est des gens, comme je vous dis, très recevants, et puis c'est sûr, peut-être un peu naïfs, là, naturellement, face à des Européens plus instruits et tout ça, mais finalement, Cartier va tenir parole aussi. Et en même temps, ben, en retournant de Gaspé jusqu'à l'île d'Anticosti, et jusqu'à la Côte-Nord, où il va donner le nom du golfe Saint-Laurent, il va l'appeler la baie Saint-Laurent, ce qui va donner plus tard tout le fleuve Saint-Laurent va s'appeler finalement avec ce nom-là. Vous voyez comment c'est intéressant. En fait, hein, il jette les bases de la Nouvelle-France finalement
dans
cette année-là.
Oui.
C'est ça qui est intéressant de voir. Heureusement, c'est très bien documenté. C'est vraiment intéressant de voir toute cette histoire-là là, quand on commence à étudier ça.
Est-ce que vous pourriez me parler également de ces autres voyages? Vous m'avez dit qu'il en avait fait 3 voyages.
Oui. En fait, il revient à Saint-Malo le 5 septembre 1534.
Ouais.
Et il va recevoir une autre commission du roi, finalement, pour faire un autre voyage.
Alors moi, j'ai une question un peu bête, mais on parle de quel roi? Vous savez le nom du roi de France qui était à cette époque? Alors attendez, 1500, vous m'avez dit 1534. Alors je veux pas vous poser une colle. Hein. 1534, c'est Louis XIV, c'est en 1600 quelque chose. Donc ça doit être avant Louis XIV, ça doit être même avant Louis XIII, je pense. Hein.
Oui, mais ça je pourrais vous le trouver. Peut-être que je vous donnerai la réponse à la prochaine chronique, peut-être.
Oui, c'est super ça. Désolée de vous avoir posé une petite colle.
Non, j'aurais dû quand même.
Je me suis posé cette question-là en me disant. Quand vous m'avez dit le roi de France, je me suis dit, mais de quel roi on parle à cette époque-là? Mais si vous me dites 1534, Louis XIV, il est mort en 1715 et je crois qu'il est né en 1621 ou quelque chose comme ça.
C'est ça, donc.
Ça doit être même avant son père Louis XIII. Je pense que ça doit être avant Louis XIII.
Oui. C'est, de toute façon, je vais vous donner le nom. Ce qui est intéressant, les Français, les deux Indiens, finalement, vont apprendre assez bien le français. Et quand ils reviennent un an plus tard, ils savent, ils connaissent la langue et ils vont servir d'interprètes et tout ça. Ils vont traduire et ils vont leur donner un peu, par exemple, Donnacona, c'est le chef, donc il faut l'appeler la Guana. Hein, c'est important qu'il est finalement un peu le seigneur du coin, là, de Stadacone. Et ça, c'est intéressant.
Est-ce que vous pourriez me parler un peu de Stadacone, d'ailleurs?
Oui,
Stadacone, comment vous le prononcez?
Stadacone, c'est un village iroquois, ce qu'ils appellent le peuple du maïs ou le peuple des maisons longues, parce qu'ils restaient dans des maisons longues, peut-être à 20-25 familles. C'était des femmes qui contrôlaient, les mères de clan, finalement, qui contrôlaient les maisons, qui donnaient les chambres. C'est eux qui décidaient, c'est elles qui décidaient. Les gens qui demeuraient dans les maisons étaient apparentés aux femmes. Donc, c'était eux qui choisissaient les chefs, par exemple. Et donc, c'était des sages qui avaient aussi le secret des herbes de guérison et tout. Donc, c'est intéressant. Donnacona, lui, c'est un grand chef. Hein. C'était un gros... il était très impressionnant. C'était un orateur né, si on peut dire. Et il s'en laisse pas imposer. Hein. C'est sûr que quand ça ne fait pas son affaire, Jacques Cartier, il va le savoir assez vite.
Ouais.
Et donc, c'est ça. Dans le fond, hein, on arrive chez eux. Là, hein. C'est son pays, c'est sa terre. Et en parlant de pays, en fait, un village, le mot village, à l'époque, c'est un mot iroquois qui signifiait Canada. Donc,
ouais, oui.
Donc c'est intéressant. C'est comme ça que finalement, quand ils reviennent, Domagaya, les deux fils, Taoyongani, ils vont dire, bon, notre village, notre Canada est à l'autre bout de la rivière, donc c'est comme ça qu'il y a finalement
Jean-Cartier. Ah, c'est super, ça!
Oui, c'est ça qu'il en déduit que c'était la grande rivière du Canada qui allait, c'est ça, parce que les fils vont le conduire, eux, peu à peu, c'est eux qui vont le guider dans le Saint-Laurent. Donc, en ce sens, un quartier devient le premier européen à remonter le Saint-Laurent jusqu'à Québec et plus tard jusqu'à Montréal, qui s'appelait Hochelaga à l'époque. Donc,
Et où est-ce que ça se situe, Hochelaga? Vous pouvez me le redire?
Hochelaga, c'est Montréal. C'est autour de ce qu'on peut dire aujourd'hui, plus ou moins l'université de McGill, par exemple.
Là. Ah oui, ouais, ah, oui. Vous êtes très précis, hein, dis donc. Ah ouais.
Non, c'est quand même intéressant, hein. Et le village de Stadacone, les Iroquois du Saint-Laurent, eux, cultivaient, hein, c'est ça qu'ils appelaient le peuple du maïs, parce que c'était le maïs qu'ils cultivaient. Ils cultivaient aussi la courge, qui cultivaient aussi les pois, les petits pois et tout ça. Et là, ben, le maïs servait de tige, de tuteur pour les pois, et la courge avec ses grandes feuilles empêchait le mauvais herbe. Alors il y avait des champs complets. Donc c'est intéressant, hein? C'est un peuple quand même assez sédentaire pour l'époque. Là, c'était une société assez bien organisée aussi.
Et donc ils ont passé l'hiver à Stadacone, les explorateurs?
Oui, ils sont arrivés à l'île, près de l'île d'Orléans, tout ça que Cartier l'a appelé Bacchus au début, parce qu'ils ont trouvé des vignes sauvages, vraiment beaucoup, beaucoup, donc il l'a appelé l'île de Bacchus, mais quelques jours plus tard, il a changé le nom pour l'île d'Orléans, donc finalement.
Ah oui, d'accord, ok.
Duc d'Orléans, donc voyez-vous, c'est encore le nom qui reste encore, hein, c'est ça qui est intéressant. Et
le duc d'Orléans, qui est, si je me trompe pas, le frère du roi, hein, normalement, hein. C'est bien ça, le duc d'Orléans.
C'est le duc, oui, exactement. Oui,
le duc d'Orléans, c'est le frère du roi.
C'est ça, c'est en l'honneur. Comme l'île Brion, il l'a nommé en l'honneur de celui qui l'avait beaucoup aidé, qui l'avait pour faire le premier voyage. Voyons, il y a toujours, disons qu'il est assez reconnaissant pour ça, là, pour tous ces personnages-là. Quand ils passent l'hiver, c'est ça, ils vont passer l'hiver dans la rivière Sainte-Croix, là, qui appelait Sainte-Croix, qui la rivière Saint-Charles aujourd'hui, juste l'autre côté, ben un peu plus loin sur les hauteurs, c'est Stadacone, donc eux sont dans la rivière, et finalement l'hiver est vraiment très très difficile, hein. Il y a des, la glace puis la neige monte jusqu'au neige pratiquement en terre, pratiquement tout le bateau, tous les bateaux.
Ah bon? Ah oui, c'est impressionnant quand même, hein?
C'était un hiver très, très dur, mais à l'époque, la glace arrivait très tôt aussi, hein, ça gelait vite. Aujourd'hui, ça gèle même plus, là, mais à l'époque, ça gelait fin septembre, novembre, octobre, tout ça, des fois, c'était gelé. Hein, les hivers étaient beaucoup plus durs, naturellement, beaucoup plus difficiles qu'aujourd'hui. Et la neige aussi. Et là, ben, ce qui devait arriver arriva, hein, ils ont eu le scorbut.
Ah oui, ils sont tombés malades.
C'est ça, le scorbut s'est déclaré dans le village, d'ailleurs, d'après ce que j'ai lu, il y a une cinquantaine de morts chez les Indiens, mais malgré toutes les précautions de quartier, c'est-à-dire plus d'Indiens sur le bateau, parce qu'ils allaient tous les jours, les Indiens, eux, ils aimaient ça, là, les rencontrer, les Français, puis ils avaient toujours des petits cadeaux et tout ça. Mais là, finalement, il y a aussi... là, c'est là ce qui. Finalement, il va y avoir dans le premier mois, il y a 8 morts, finalement. En tout, il y a 25 morts chez les marins.
D'accord.
Ouais. Là, il y a une chose qui est arrivée, par contre, quand Jacques Cartier a voulu, tout de suite avant son arrivée vers rivière Sainte-Croix, son idée, c'était d'aller jusqu'à Hochelaga, parce que les fils de Donnacona, il avait parlé de d'autres villages. Oui. Donc, il veut aller à Hochelaga, mais là, c'est finalement... La, 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 en fait, il sait, naturellement, Jacques Cartier ne sait pas, mais ce sont des villages ennemis. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de batailles, hein, beaucoup de guerres entre les tribus.
Les tribus indiennes.
Ah oui, absolument. C'était dans la nature, mais c'était aussi c'était des hommes aussi. C'est-à-dire tous les mêmes sentiments que peu importe sur la terre. Hein, les hommes ont des sentiments de pouvoir, de domination. Et là, c'était finalement celui qui dominerait les autres villages, parce qu'il y avait d'autres villages. Ah, oui. Il y avait près de 100 000 Iroquois entre Montréal et Québec, hein, disséminés.
Mais c'est énorme.
Partout. Ah, c'est énorme, absolument. Oui. C'est énorme. Et c'est pour ça que finalement, c'était très difficile de fonder une colonie à l'époque, là, en 1534-35. Et là, ben, ce qui va arriver, c'est que Donnacona va refuser que ses fils aillent avec Jacques Cartier, parce qu'ils pouvaient connaître la langue et tout ça. Là, ça aurait été plus facile. Et ils vont faire toutes sortes de simagrées, tout ça, même sortir un peu de magie, tout ça, de sortir des gens pour des gens masqués qui symbolisent le diable et tout ça, et le dieu. Leur dieu qui leur dit, ah non, on n'y va pas parce qu'il va y avoir de la neige, il va, vous allez tous périr. Et puis finalement, il dit, mes fils n'iront pas, mais finalement, Jacques Cartier décide d'y aller quand même et va rencontrer finalement les Iroquois de d'Hochelaga.
D'accord.
Mais tout le long du Saint-Laurent, il y a des gens qui précèdent en barque et qui vont finalement faire un peu voir les voir les autres villages, si par exemple s'il y a du danger, s'il y a des Indiens, tout ça, parce que Cartier se méfie beaucoup parce qu'il y a eu naturellement l'expérience d'Amérique latine, hein, que c'était pas très violent et tout ça. Alors mais les Indiens d'Amérique du Nord, du Canada, c'est pas des gens violents. C'était des gens qui recevaient très bien, comme je vous disais, leur visite. Mais aller s'installer, c'est autre chose. Ça, on va le voir peut-être plus loin aussi quand ils ont essayé de faire une première colonie. C'est intéressant dans le sens. Et quand ils reviennent, finalement, ils sont à Sadokone, après avoir passé une vingtaine de jours et tout ça. L'amitié est moins forte là, entre chefs et ça. Mais à Montréal, par contre, c'est-à-dire à Hochelaga, ils vont rencontrer des milliers d'Indiens là, qui sont sur l'île de Montréal, qui s'appelle Hochelaga. Ils vont même, les Indiens vont même l'amener sur la montagne, qui d'ailleurs Jean Cartier va lui donner le nom de Montréal, pour le seigneur de Montréal qui l'accompagne. Donc, vous voyez que le nom est resté finalement Montréal, ben c'est Real, c'est espagnol, et finalement, donc Montréal va s'appeler Montréal plus tard, et le Montréal va s'appeler le Mont-Royal d'aujourd'hui.
D'accord.
Donc c'est intéressant de ça. Finalement, il revient et là, c'est l'hiver qui commence et tout ça, et c'est le scorbut, comme je vous dis. Et ça, ce qui est intéressant aussi, ils sont aperçus que, comme Domagaya, il était malade, à un moment donné, il avait attrapé le scorbut, et deux jours plus tard, il revient au bateau et il est plus malade du tout. Alors, finalement, il va, Jacques Cartier va trouver, il va dire peut-être qu'ils ont un remède, finalement. Et finalement, il va le questionner habilement, et Domagaya va leur donner un remède, donc contre le scorbut, pour guérir le scorbut, et c'est du cèdre blanc.
Le cidre blanc,
qui appelle l'aneda à cette époque-là. Mmh. Et il fallait le faire bouillir, le mettre en genre de poudre et le faire bouillir. Et finalement, deux jours plus tard, tout le monde était guéri, hein, sur le bateau. Donc, vous voyez, finalement, était, et c'est parce que les Indiens avaient le secret, beaucoup de secrets comme ça de cette médecine naturelle qui s'est oui. perdue naturellement avec le temps. Mais nos ancêtres, nos premiers ancêtres qui sont arrivés ici, eux connaissaient beaucoup. Hein, les remèdes, peu à peu, sont adaptés. Les coureurs des bois, souvent, ont appris les langues et sont restés dans les... sont restés dans les tribus, finalement, parce qu'ils mariaient les Indiennes et tout ça. Donc, vous voyez qu'il y a eu un beau mélange aussi. Hein, mais à l'époque, c'était pas ça du tout qui était arrivé. Là, ils vont passer tout l'hiver, finalement. Ils vont retourner à Saint-Malo, mais ils sont obligés de laisser la petite Hermine. Il y avait les Mérions, la grande Hermine et la petite Hermine comme bateau. Mmh. Et comme ils ont pu, comme il y a 25 morts, ben, il n'y a plus assez de bateaux. Il n'y a plus assez d'hommes pour le troisième bateau. Ils vont laisser la petite Hermine et ils vont rentrer en France, finalement, avec les deux bateaux. Et, c'est un voyage, quand même, d'exploration qu'ils ont fait avec beaucoup de découvertes. Hein. C'était les premiers Blancs, finalement, ou Européens, avec tel cas bien documenté, là, qui ont remonté le Saint-Laurent jusqu'à Hochelaga. Là, ça, c'est intéressant. Ouais.
Et on va faire une petite pause musicale et on va repartir avec Viateur Lefrançois pour sa chronique sur Jacques Cartier. Vous êtes bien sûr Choc FM 105.1 avec Kitry Hervouet. Je suis au téléphone avec Viateur Lefrançois qui nous parle de Jacques Cartier, qui est un explorateur français qui a exploré le Canada français, qui s'y est installé. Quand ils sont retournés en France, qu'est-ce qui s'est passé?
En fait, ce qui est arrivé... à la fin du deuxième voyage, il y a eu un problème de pouvoir à Stadacone. Et ils vont finalement, il y a un rival, Donnacona, un rival qui s'appelle Agona. Et il veut finalement prendre le pouvoir. Et on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, mais on peut penser finalement que Jacques Cartier a négocié avec le chef qui aspire au pouvoir à Gona, parce que Jacques Cartier va capturer Donnacona. Et lors d'une visite, la dernière, il s'en allait finalement, il revenait en France et Donnacona lui rend visite avec plusieurs personnes, ses fils et tout ça. Et là, ben Jacques Cartier va finalement capturer Donnacona, ses fils, et quelques autres, les gardes du corps. Finalement, puis il y a aussi deux jeunes filles qui avaient été données en cadeau à Jacques Cartier, parce que dans ses voyages, il y avait eu des cadeaux. À l'époque, c'était courant de donner des enfants.
Ah oui, c'est vrai que c'est quand on pense à ça, c'est impressionnant, je trouve. Hein. Des enfants, enfin des êtres, parce que des enfants au final ce sont des êtres humains, donc de donner des êtres humains c'est toujours
un cadeau. Ouais. C'est ouais. Ça. Jacques Cartier, à un moment donné, ils ont refusé, mais refuser c'était comme une insulte. Hein.
Ouais.
Donc il avait accepté deux jeunes filles de différents chefs et même le propre petit enfant de Donnacona aussi. Donc ils repartent en France avec Donnacona. Les deux jeunes interprètes, donc, et un petit deux jeunes filles, un petit garçon et des gardes du corps et tout ça. Finalement, ce sont 9 Indiens en tout qui retournent à la fin du deuxième voyage, qui s'en vont en France.
D'accord.
Et là, finalement, ben, il va rentrer le 16 juillet 1536, il rentre à Saint-Malo, un voyage de quand même de 14 mois. Hein.
Si je comprends bien, ils ont mis 14 mois pour faire le Canada-France en bateau, c'est ça?
En fait, c'est en tout, là, c'est-à-dire ils ont parti en 1535, ils reviennent en juillet 1536.
Ah oui, non, ok, d'accord.
Okay. C'est ça, une absence de 14 mois.
D'accord.
C'est un voyage qui a rapporté beaucoup quand même avec avec les explorations et tout ça. Donc, ça permet finalement à Jean Cartier de faire son rapport au roi pour... Ah ben tiens, c'est François Ier.
C'était François. Ah, ben oui. C'est François Ier, on en parlait tout à l'heure. Donc, le roi qui était au pouvoir en France en 1534-1536, à cette époque-là, c'était François Ier. D'accord,
oui,
super.
C'est ça, oui, j'ai dit ici, c'est ça. C'est ça, il va faire son rapport. Et naturellement, François Ier est vraiment impressionné par tout ça. D'ailleurs, il va faire témoigner Donnacona devant. Il va l'amener à la cour de France et il va finalement impressionner le roi. Il va faire, même si personne ne le comprend, Donnacona, il va parler dans sa langue et les gens l'écoutent religieusement, dont le roi. Mais il y a naturellement le traducteur, donc son fils Domagaya qui va impressionner aussi par son physique. Hein. Les Indiens à l'époque étaient très grands par rapport aux Français ou aux Européens. Hein. Et il y avait des grandes jambes, il était habitué dans la forêt, donc c'était des gens costauds. Et il arrive avec à la cour habillé comme il s'habillait chez eux, c'est-à-dire une simple peau qui cachait les fesses finalement.
Oui.
Et naturellement, ces gens-là vont impressionner la cour, naturellement. Ça, c'est intéressant, mais tellement que finalement, après le discours de Donnacona, François Ier va accepter finalement qu'il refasse un autre voyage.
Donc ça, c'est le troisième voyage.
C'est le troisième,
hein.
C'est ça.
D'accord.
C'est ça. Mais les Indiens vont être installés dans le château de Jean Cartier. Ils vont vivre très, très bien. Le problème, c'est que le troisième voyage s'effectue 5 ans plus tard, en 1541, parce qu'il y a la guerre qui éclate entre François Ier et Charles Quint d'Espagne. Il y a les guerres de religion qui en finissent plus, hein, parce que c'est les guerres de religion, hein, c'est pas d'aujourd'hui.
Attendez, moi si je comprends bien pour quand même resituer, en fait ils sont arrivés, ils sont revenus en 1536 et ils sont repartis en 1541, c'est ça?
Exactement.
Donc en fait les 9 Indiens sont restés sur le sol français pendant 5 ans. C'est ça?
Ah oui, absolument.
D'accord.
Le problème, c'est ça. Sauf que ils sont sauf une jeune fille, tous les Indiens sont morts d'une maladie mystérieuse, on peut dire, peu à peu. Donnacona, le premier.
Ils sont tous morts, deux. D'accord.
Oui, c'est parce que quand même, eux étaient pas immunisés, hein, contre les maladies des Européens de l'époque. Là. Ils demeuraient dans les... C'était la faune, finalement. C'était la faune de la forêt ici. Et eux vivaient dans la nature, hein, dans la forêt, tout ça. Alors que là-bas, c'était la ville, Saint-Malo. Il y avait des épidémies très souvent. Donc, peu à peu... Mais par contre, Donnacona et ses deux fils se sont fait baptiser aussi. Ça, c'est quand même intéressant.
Ils sont devenus catholiques.
Oui, c'est ça, parce que, en fait, Donnacona, son idée, c'était de finalement de servir d'intermédiaire quand il retournerait là-bas, finalement d'avoir un peu le contrôle des fourrures et tout ça. Vous voyez, finalement, sa pensée. Donc, il va dire, je m'en fais baptiser, je vais être catholique, et puis ils vont avoir plus confiance en moi. Il y avait quand même raison aussi.
Ouais.
Parce que c'était très chrétien, la cour de France.
Oui,
c'était catholique. Plus que le pape, probablement. Et finalement, malheureusement, tous les Indiens, sauf une jeune fille, ils vont tous mourir un après l'autre. Mais ils ont fait quand même, ils ont été très bien logés, très bien nourris, ils sont pas morts de misère, heureusement. Là. Mais ils sont quand même pas retournés dans leur terre, malgré la promesse de Jean Cartier.
D'accord.
Ouais,
donc au final, sur les 9, il y a une des jeunes filles qui a survécu. Il y en a. Donc ils sont tous morts, vous disiez, de maladie, hein, d'une maladie qu'on ne connaît pas en plus. Hein.
Exactement, oui. J'ai essayé de vraiment chercher. Mais il y avait tellement de maladies. Je pense que Jean Cartier, il est mort de typhus. Hein, donc, vous voyez, c'est des maladies, hein, qu'il ne contrôlait pas à l'époque, malheureusement. C'est ça. Mais en mai, finalement, il va y avoir le troisième voyage quand même, après là, les guerres et tout ça, mais je vais dire que l'Espagne, l'Espagne avec la complicité du pape, par exemple, le pape va accorder toutes les nouvelles terres à l'Espagne. Naturellement, le pape, le roi est un peu plus mécontent, mais il va dire, finalement, il va contourner, il va dire, ah ben, nous, on va pas pour s'approprier les terres, on va pour évangéliser.
OK. C'était pas le même les Espagnols et les Français n'avaient pas le même but en fait en allant au Canada, si je comprends bien.
Ah non, les Espagnols, eux, c'était la richesse. Tout ce qu'ils voulaient, c'était de s'accaparer des richesses. C'est ce qu'on fait en Amérique latine avec les Incas et tout ça, là. Les Mayas, tu sais, qui ont éliminé tous les chefs et finalement sont accaparés toutes les richesses de l'Amérique latine. Mais ils pensaient bien que finalement, c'était la même chose au Canada.
Au Canada, oui.
C'est ça. Et puis, d'ailleurs, l'Espagne avait prévenu qu'il détruirait tous les bateaux, il enverrait des flottes et il détruirait tous les bateaux qui, finalement, s'aventuraient en Amérique. Mais finalement, ils n'ont pas pu le faire. D'ailleurs, un évêque de Séville qui avait d'ailleurs, si on peut dire, conseillé au roi ou à Charles Quint de tout détruire. Donc, ce cher évêque était très charitable. Mais c'est de la politique, hein. À l'époque, donc, la religion se mêlait à la politique.
Oui, de la politique. Effectivement, l'Église et l'État n'étaient pas séparés comme dans nos sociétés actuelles. Moi, j'ai juste une petite question. Je me dis, donc, en fait, ils y ont vraiment été, les Espagnols, au Canada, ou pas, au final? Parce que Jacques Cartier, il est parti, donc, en 1636. Il est revenu, il a fait son troisième voyage en 1641. Donc, pendant ces 5 ans, ce laps de temps, il y a personne qui a été? Les Espagnols, ils y ont été ou pas au Canada? Vous le savez?
Non, ben, en fait, c'était la guerre. Hein,
oui, donc il ne s'est rien passé.
Donc, c'est ça. Les Anglais ont tenté une expédition à Terre-Neuve, mais finalement, ça a vraiment tourné au désastre. Presque tout le monde est mort. Ils ont même pratiqué le cannibalisme pour survivre. Ah. Et ils sont retournés en Angleterre vraiment complètement ruinés, alors qu'ils pensaient finalement, le capitaine pensait de bien. C'est parce qu'en fait, les Espagnols, ce qui arrive quand Donnacona est allé témoigner devant le roi François Ier, il a parlé de mines, il a parlé d'or, il a parlé de toutes les richesses naturelles qu'il pouvait finalement trouver dans le royaume du Saguenay. Un peu Eldorado, finalement, et des espions espagnols, naturellement, se sont empressés, qui étaient à la course, sont empressés de rapporter ça. Et là, ben, les Espagnols ont dit, oh, s'il y a la richesse, on va aller la chercher avant les Français. C'est un peu de cette idée-là, hein. De richesses qui menaient le monde, les grands de l'Europe à l'époque, hein, toutes les époques, mais à cette époque-là, ils sortaient un peu du Moyen-Âge aussi, hein, et finalement, c'était la richesse qui primait, puis les rois, ben, plus qu'il y avait de richesse, plus qu'ils étaient puissants, hein, c'était la domination sur les mers un peu partout, hein, et c'est comme ça, d'ailleurs, l'Angleterre a fait développer sa richesse en attaquant beaucoup les bateaux espagnols pour voler leur richesse qu'ils prenaient en Amérique latine. Hein. Et c'est comme ça qu'ils sont devenus les maîtres des mers, hein, dans les années 1500, 1600, 1700, qui ont finalement dominé le monde très longtemps. Hein. C'est toujours c'est la richesse, hein, que toujours.
Est-ce qu'on peut dire que Jacques Cartier, il a vraiment découvert le Canada ou au final, c'est pas lui qui l'a découvert, hein?
Ben, en fait, ce qui arrive, il y a Jean Cabot, là, qui était italien, mais envoyé par l'Angleterre. Comment lui, il l'appelle Jean Cabot, mais c'était Caboto. Mais il n'y a pas de papier, il n'y a pas de document qui le prouve, mais ils ont décidé que c'était lui qui avait découvert le Canada, finalement, mais il a fait un voyage et il aurait été, d'après ses dires, à Terre-Neuve, et était retourné en dira que j'ai découvert une terre en Amérique ou aux Indes occidentales, Et il est revenu ici, mais finalement, il n'est jamais retourné parce que toute sa flotte s'est retrouvée au fond des mers.
Donc, et ça, c'était... désolé de vous interrompre, mais c'était à quelle époque, ça, Jean Talbot?
Un petit peu avant 1530, là, peu avant le voyage de Jean Cartier. Mais il n'y a pas de document, les historiens m'entendent pour dire qu'il n'y a aucun document qui prouve cette chose-là. Donc, mais sauf que si on le prend pour acquis, par exemple, Jean Cartier, naturellement, c'est pas Jean Cartier qui a découvert Terre-Neuve parce que les pêcheurs sont allés, les pêcheurs français sont allés, basques et tout ça. Et il y a aussi, ils ont trouvé aussi des ruines vikings partout à Terre-Neuve et tout ça, et surtout au Labrador. Donc, mais ça, il n'y a pas de document là, qui prouve ça. Non, mais Jean Cartier, par contre, lui, aurait été, c'est sûr qu'il a découvert tout l'intérieur, tout le Saint-Laurent, le golfe Saint-Laurent et tout ça. C'est lui qui, finalement, a été le premier à découvrir tout ça. Ben, c'est sûr qu'avant la rentrée, par exemple, de Terre-Neuve, dans le Canada, ben c'était Jacques Cartier, parce que Jean Cabot, lui, a découvert, finalement, a mis des pieds sur les terres de Terre-Neuve, mais il n'a pas été plus loin, là, alors que Jacques Cartier, lui, a fait vraiment tout l'intérieur. Donc, on peut dire que c'est sûr que pour nous, les Québécois, c'est Jacques Cartier, c'est ce qu'on a appris de toute notre vie. C'est Jacques Cartier qui, finalement, a vu notre terre, le premier, naturellement, qui a foulé les pieds, qui a rencontré tous ces gens-là. Là. Ouais. Dans le troisième voyage, ce qui est intéressant à connaître aussi, c'est que sont arrivés sa mission, c'était Jean Cartier, toujours de découvrir l'Asie. Hein, ça a toujours été les routes de l'Asie pour les épices, tout ça, mais là, finalement, il ne l'a jamais découvert naturellement. Mais il est arrivé finalement dans le Saint-Laurent. Il pensait bien que ça déboucherait quelque part. Il finalement déboucherait sur l'Asie, un peu comme la baie des Chaleurs et tout ça, mais toujours des déceptions. Mais finalement, le troisième voyage, il va arriver ici avec au-dessus de 1300 personnes. Avec l'idée de faire une colonie française.
En fait, ils sont arrivés donc en bateau en 1541 avec à plusieurs bateaux, je suppose, hein, à 1300 personnes.
Cinq bateaux, 1360 personnes.
Ah oui.
Beaucoup avaient été sortis de prison pour quand il y avait des peines mineures et tout ça, des coupes aussi qui avaient accepté de venir s'installer. Et sauf que c'est sûr quand il arrive à la rivière Sainte-Croix, donc en face de Sadoconé, Aguana arrive vite naturellement et lui il est anxieux de savoir si Donnacona est avec. Finalement, il leur apprend que Donnacona est mort, mais il dit pas que tous les autres sont décédés. Il leur dit que finalement ils ont décidé de rester en France parce qu'ils s'étaient mariés puis que finalement ils étaient devenus riches et parce que finalement il aurait pu avoir des vengeances du même clan. Là. Et finalement, ils n'ont jamais su que tous les autres étaient décédés. Là, que Donnacona était mort. Mais sauf que Aguana, lui, celui qui a remplacé Donnacona, est très, très, très content, finalement.
D'accord.
Oui. Et là, Jacques Cartier, il se méfie quand même de Aguana et tout son groupe, parce que il était plus sûr avec Donnacona. Donc, il va aller installer sa colonie, ce qui est aujourd'hui le Cap Rouge. Donc, parce que le Cap Rouge, il est rouge justement, et c'est vraiment un endroit très sûr, très facile à défendre. Donc, ils vont construire un fort sur la falaise et un deuxième fort près de la rivière, juste en bas. Donc, celui d'en haut pouvait défendre celui d'en bas, là, près de la rivière. Et il va commencer, mais comme le voyage a été catastrophique, le voyage en auto, en bateau a pris des mois et des mois, sont arrivés juste au mois d'août. Donc, trop tard pour semer. Tout ça, donc ils arrivent au mois d'août, s'installent, et là, heureusement, ils ont de la nourriture quand même pour un an, puis en même temps, ils peuvent aller chasser, ils peuvent aller pêcher, mais ils vont construire tous ces gens-là, le phare pour les gens, et ils vont vraiment partir une colonie. Mais les Indiens ne sont pas très heureux là, hein, de voir... parce qu'en fond, on leur enlève la nourriture de la bouche. Là.
Oui, oui.
C'était près de... C'est pas loin de Stadacone, le Cap Rouge et tout ça. Et... Et même, ça va mécontenter pas mal de monde. Même le chef, un chef d'un village qui s'appelle Achelassi, qui avait été un de ses amis, qui était devenu vraiment un ami au dernier voyage, l'abandonne carrément. Et là, ils sont sur la défensive, les Français. D'ailleurs, quand Jean Cartier va retourner à Stadacone, à Hochelaga, d'ailleurs, pour essayer de voir un peu plus loin, puis peut-être découvrir peut-être justement la richesse dont Donnacona avait parlé plus tôt. Mais il va revenir parce qu'il était inquiet. Et il était inquiet à juste titre, parce que quand il arrive, finalement, d'après les documents, il y aurait eu 35 Français de tués par les Indiens dans le fort, donc les Indiens de Stadacone. Puis tous les Indiens, c'est naturellement... comme je vous disais tantôt, ils aiment beaucoup la visite, mais ils n'aiment pas tellement ceux qui s'installent. Donc, finalement, à la fin de l'hiver, ils vont passer un hiver très difficile à surveiller tout le monde et surveiller les Indiens à la chasse. Donc, ils avaient peur toujours de se faire attaquer, hein, ce qui est arrivé quelquefois. Oui. Et finalement, ils vont décider de revenir en 1542. Cartier lève le camp, tout simplement.
D'accord. Il repart en France?
Il repart en France avec tous les survivants, finalement. Mais il n'y a personne qui est mort du scorbut, parce que Jacques Cartier connaissait la recette. Là, donc, dès qu'il y a eu des le scorbut, c'est un manque de vitamines, hein, de bonne nourriture et tout ça. Là, c'est ça qui était le problème. Hein. Et ils ne savaient pas trop comment se nourrir à l'époque. Puis l'hiver ici, c'était autre
plus
chose.
Plus rude, oui.
L'hiver en France, hein, c'était très difficile. Il fallait avoir de bonne nourriture solide. Mais sauf que Jacques Cartier, lui, c'est un voyage fait d'illusions, parce qu'il a trouvé du minerai d'or, des diamants, mais sauf que le problème, c'est que l'or était du pyrite de fer et les diamants étaient du quartz. Mais finalement, lui, il avait rempli des tonneaux pour montrer ça au roi, pour dire, regardez, on a réussi. Mais finalement, c'est un peu comme le proverbe qui a commencé à l'époque, comme il disait, la cour et tout ça, ça s'est répandu. Alors, c'est faux comme des diamants du Canada, finalement. Vous voyez comment...
D'accord.
C'est un peu comme ça, que finalement, les trois voyages de Jacques Cartier ont passé. Mais quand même, c'était Jacques Cartier était un explorateur extraordinaire, un navigateur qui est passé par trois mois de tempête et sauvé tous ses bateaux en plus et sauvé tout son monde. C'était quelque chose. Hein. Mais peut-être une anecdote, peut-être avant de quitter sur des bateaux pendant, imaginez-vous, trois mois là, sur un bateau. À un moment donné, là, l'eau était plus bonne. Il y avait du cidre, il y avait beaucoup de cidre. Alors, il donnait même le cidre au cochon qu'il avait amené, parce qu'il avait amené au troisième voyage.
Oui.
Donc, il donnait du cidre au cochon.
D'accord. Les cochons étaient alcoolisés, donc.
Oui, finalement, ça là, il aimait beaucoup ça. Il y avait la nourriture aussi, hein, pour les, l'eau, naturellement, s'est corrompue. Et il y avait ce qu'il appelait les biscuits, hein, les biscuits de navigateurs. Et souvent, les marins... mangeaient la nuit pour ne pas voir que tout ce qui bougeait sur leur nourriture. Donc ça, c'est quand même des anecdotes intéressantes à raconter.
Oui, à raconter aux auditeurs.
Oui, c'est ça. Tu sais, des petits vers qui se promenaient un peu partout là, sur leurs biscuits. Il y en a qui n'aimaient pas ça tellement. Donc, comme vous voyez, ça devait être extraordinaire dans un sens de voyager, découvrir des terres. Aujourd'hui, il n'y a plus rien à découvrir.
Hein. Oui, non, effectivement, oui, on a découvert tout, enfin, le monde entier et enfin a été déjà exploré. Donc, c'est vrai que c'est... L'époque des grands explorateurs a toujours été, je trouve, fascinante. On en a eu plusieurs en France. On a eu également, à l'époque de Louis XVI, la Pérouse, qui a été également explorée. Alors, c'était pas l'Amérique, ni le Canada, mais c'était plus vers l'Australie qu'il a été. Mais c'est vrai qu'on a eu des grands explorateurs en France.
Oui, un peu comme... La prochaine chronique va porter sur justement Samuel de Champlain, qui a été un des grands explorateurs, et on va en parler des autres explorateurs un peu. On va donner un peu le nom de différents, beaucoup d'explorateurs français, naturellement, hein, c'est la Nouvelle-France, hein, qui commençait, là. Et ça va être intéressant aussi, Samuel de Champlain, parce que c'était un des grands hommes de la Nouvelle-France, qui a fondé la Nouvelle-France, qui a fondé l'Acadie. Imaginez-vous, que si les gens s'intéressent à cette première chronique, c'est-à-dire sur Jacques Cartier, ils vont adorer les prochaines aussi.
Merci beaucoup, Viateur Lefrançois, pour cette chronique sur Jacques Cartier. Merci, c'était vraiment très intéressant. Chronique historique avec Viateur Lefrançois. Vraiment, merci beaucoup, parce que pour ceux qui aiment l'histoire, vous êtes un puits de science. Vous nous avez parlé vraiment en détail des trois explorations et des trois voyages de Jacques Cartier au Canada. Merci beaucoup, Viateur, et on se retrouve pour une prochaine chronique.
Mais merci beaucoup.
Vous étiez sur Choc FM 105.1 avec Kitry Hervouette.